Dans le début du christianisme, justement, par rapport à ce numéro 364 là, du catéchisme, il insiste là-dessus, parce qu'au début du christianisme, ce n'était pas si clair. Le début du christianisme s'est beaucoup appuyé sur Platon. Or, Platon, ça vous rappelle des souvenirs plus ou moins anciens, des souvenirs de votre terminale, c'est-à-dire hier, n'est-ce pas? Eh bien, Platon... L'ami Platon, qu'est-ce qui se passait? C'est que l'ami Platon, il pensait qu'au fond, le vrai monde, c'était le monde des idées. Mais quand il dit idées, ce n'est pas des concepts, c'est il y avait un monde des idées, mais les idées étaient plus vraies que le monde matériel. Et le philosophe devait contempler ce monde des idées, s'élever, s'extraire de son corps pour contempler le monde et le redonner ensuite à ceux qui étaient sur Terre. Donc, c'est... Et évidemment, du coup, on peut évidemment faire de la comparaison avec la dimension chrétienne, et beaucoup de chrétiens, à commencer par saint Augustin, étaient néoplatoniciens, c'est-à-dire qu'ils disaient, c'est vrai, la vérité n'est pas de ce monde, la figure de ce monde passe, ce monde matériel passe, mais le vrai monde est ailleurs. Nous sommes, hein, c'est saint Paul qui dit, ne savez-vous pas que vous êtes citoyens des cieux? Mais par rapport à ça, l'Église n'a pas retenu cette position-là, curieusement. Elle dit non, c'est dans notre corps aussi, nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. Parce qu'on est en fait en loi d'incarnation. L'incarnation, le fait que Dieu ait pris notre nature humaine, et dans notre nature humaine, il y a le corps. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, c'est un peu curieux que une religion qui défende le corps, par exemple, qui prône l'incarnation, en même temps. C'est un peu des contradictions, il ne faut pas avoir peur de le dire, mais en même temps, il y a eu un regard si négatif sur le corps pendant des années et des siècles. Parce que, et justement, derrière ça, l'idéal de vie chrétienne, c'était la vie monastique. Saint Paul dit aussi, ceux qui brûlent, pardon mesdames, mais, ceux qui ne peuvent pas se retenir, qu'ils prennent femme, mais les autres, les parfaits, voilà, qui se consacrent dans le célibat et la chasteté pour toujours. Je veux dire, c'est intéressant, mais ça, il faut tenir à la. Et le Concile Vatican II a rappelé justement la vocation au mariage comme une vraie vocation à la sainteté. C'est pas que la vocation monastique et la vocation à la sainteté. Mais derrière ça, c'est aussi un regard positif sur le corps. Je pense que pour nous, on doit beaucoup, alors ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on doit beaucoup à la théologie du corps de Jean-Paul II. Jean-Paul II a beaucoup travaillé, comme prêtre, évêque, et puis ensuite comme pape, sur la question de la théologie du corps, l'enseignement du corps, de redécouvrir dans le corps, et singulièrement dans l'acte intime des époux, dans la sexualité, de redécouvrir une vraie beauté. Il n'y a rien de sale dans le corps humain, parce que tout est à l'image et à la ressemblance de Dieu, à commencer ce qui est source de vie et passeur de vie dans le corps humain. Mais il nous a fallu des siècles. On a quand même bien galéré. On a bien galéré, faut le dire simplement. Et puis avec ça, parce que, quelque part, la vie, justement, la vie spirituelle contient en elle-même comme une forme de pureté. Donc, du coup, le corps, c'est ce qui nous paraît le plus... c'est qui nous tire vers le règne animal, quelque part, un peu plus. Et pourtant, déjà le Concile et puis le pape Jean-Paul II, à sa suite, a dit, nous sommes de cette nature humaine, de ce corps humain, qui est tout à fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle, mais doit respecter son corps. Voilà. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps, c'est-à-dire comme c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature. Bon, ça c'est un peu plus philosophique, L'Église enseigne que chaque âme spirituelle est immédiatement créée par Dieu. Elle n'est pas produite par les parents. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est... et qu'elle est immortelle. Elle ne périt pas lors de sa séparation du corps dans la mort, et elle s'unira de nouveau au corps lors de la résurrection finale. C'est ce qu'on croit. Mais l'âme spirituelle est immortelle, et chaque fois que vous, si vous êtes parent, etc., ben, vous avez donné la vie, mais vous êtes, on appelle la procréation. Les parents sont créateurs avec. La dimension physique, eh bien, vient de la matière, et la matière, ces matières-là, hein, les gamètes, c'est bien les parents qui les ont données. En revanche, l'âme spirituelle et éternelle est un don de Dieu. Donc, chaque fois qu'il y a une création, chaque fois qu'un enfant est conçu, chaque fois, ben, il y a déjà une présence de l'âme spirituelle et immortelle. Il y a une action. Les parents sont collaborateurs de Dieu dans le don de la vie. Ils donnent la partie matérielle. Un peu comme dans la Vierge Marie. La Vierge Marie a donné la nature humaine au Christ, mais n'a pas donné le Verbe au Christ. Ça ne voudrait rien dire. Le Christ est le Verbe de Dieu, et Dieu, et la Marie n'a pas donné la nature divine au Christ. Elle a donné sa nature humaine. De même que, une comparaison, de même, les parents donnent la matière, c'est-à-dire le corps humain, tout ce qui, mais l'âme spirituelle et éternelle, c'est un don de Dieu. Parfois, il se trouve que l'âme soit distinguée de l'esprit. Ainsi, saint Paul prie pour que notre être tout entier, esprit, âme et corps, soit gardé sans reproche à l'avènement du Seigneur. L'Église enseigne que cette distinction n'introduit pas une dualité de l'âme. Esprit signifie que l'homme est ordonné dès sa création à sa fonction naturelle, que son âme est capable d'être surélevée gratuitement à la communion avec Dieu. Voilà, c'est esprit, âme et corps. Bon, c'est moins philosophique, donc c'est moins rigoureux. Mais esprit, ça indique aussi cette capacité donc, d'être ordonné à communier à l'unique esprit, hein, qui est Dieu lui-même. La tradition spirituelle de l'Église insiste aussi sur le cœur, au sens biblique, le fond de l'être, où la personne se décide ou non pour Dieu. Là aussi, l'âme, c'est plus une notion qui vient de la philosophie grecque. La dimension biblique parle plus de cœur. Le cœur, c'est le centre de la personne. On voit beaucoup dans les psaumes, par exemple, on parle de cœur, mais pas au sens affectif. C'est le centre, comme c'est très bien dit, ça, là où la personne se décide ou non pour Dieu. C'est le centre de décision de la personne, le cœur, dans la Bible. Troisième chapitre, homme et femme, il les créa. Égalité, différence voulue par Dieu. L'homme et la femme sont créés, c'est-à-dire ils sont voulus par Dieu dans une parfaite égalité en tant que personnes humaines, d'une part et d'autre part, dans leur être respectif d'homme et de femme. Être homme, être femme est une réalité bonne et voulue par Dieu. L'homme et la femme ont une dignité inadmissible, qui leur vient immédiatement de Dieu, de leur Créateur. L'homme et la femme sont avec une même dignité à l'image de Dieu, dans leur être homme, dans leur être femme, ils reflètent la sagesse et la bonté du Créateur. Bon, ça c'est des choses qu'on sait maintenant qui nous paraissent assez claires, mais c'est intéressant que la personne humaine a été créée homme et femme. Quelque part, dans cette différence des corps, il y a quelque chose de l'altérité avec Dieu. C'est-à-dire, dans cette différence des corps, il y a quelque chose de ce qu'est la communion avec Dieu. Et du coup, c'est intéressant pour nous de méditer sur le fait que être à l'image de Dieu, homme et femme, c'est vraiment une même nature et donc une même dignité, mais en même temps une dualité, c'est-à-dire une différence. Une manière d'être au monde qui est différente, parce que les corps sont différents, et les corps disent la personne. C'est ça, c'est Jean-Paul II qui a beaucoup insisté. Le corps n'est pas simplement un amas de matière, le corps dit la personne. Et donc avoir contact avec le corps de l'autre, c'est avoir contact avec la personne de l'autre. Et il dit aussi de façon aussi très belle, c'est le corps dit de façon visible, disons, comment on dit ça, le corps dit de façon visible ce qui est invisible, que ce soit pour l'amour des époux ou même Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. C'est-à-dire que le corps de Jésus révèle l'amour du Père, de même l'union des corps des époux révèle l'amour des époux. Donc le corps a une vocation. Mais dans la distinction qui n'est pas un plus et un moins, c'est juste une manière d'être au monde différente. Alors, ce qui est compliqué, bon, il faut à la fois reconnaître la différence et l'égalité, et pas tomber dans des schémas de clichés, hein, par rapport à l'homme et la femme. Donc, il faut savoir découvrir dans le corps de l'homme, dans le corps de la femme, à la fois une complémentarité, mais en même temps une expression de l'amour qui est différente. Et ça, je pense que ça nous coûte beaucoup dans nos sociétés, où on voit la différence comme une menace, on voit la différence comme une inégalité. Ah ben non, on n'a pas tous le même appétit, on n'a pas tous la même force physique, on n'a pas tous la même dimension, l'appétit spirituel, on n'a pas... Bon, mais il y a des plus et des moins, ça ne veut pas dire qu'il y a une inégalité en nous, je veux dire, de dignité. Et je pense que là, dans cette parole de Dieu, justement, il a sacré être homme et femme, hein, eh bien, ça nous dit quelque chose de Dieu lui-même. L'union des deux dit à seul l'homme ou seule la femme n'est pas complètement ressemblance. Homme et femme, il les créa, à son image, il les créa. Homme et femme. Quelque part, dans la dualité et dans cette séparation, c'est-à-dire qu'aucun ne peut dire qu'il est à lui seul image et ressemblance de Dieu au plan du corps. C'est dans la complémentarité qu'il peut dire qu'il est image et ressemblance de Dieu. Et c'est intéressant de voir que c'est un Dieu qui est asexué, contrairement aux dieux païens. Les dieux païens, en fait, les dieux païens, les mythologies païennes, on reproduisait dans le monde transcendant ce qu'on voyait ici. Alors, il y avait des dieux hommes, il y avait des dieux femmes, il y avait des déesses, il y avait des dieux, etc. Or, pas du tout. Dans le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est asexué. C'est pas un Dieu qui est ni homme ni femme. C'est-à-dire, Dieu est esprit. Mais il veut se révéler dans cette dualité, dans cette complémentarité, dans cette séparation de l'homme et femme. Il veut dire quelque chose de lui-même. Dieu n'est aucunement à l'image de l'homme. Il n'est ni homme ni femme. Dieu est pur esprit. Hein, c'est le 370. En lequel il n'y a pas de place pour la différence des sexes, mais les perfections de l'homme et de la femme reflètent quelque chose de l'infinie perfection de Dieu, celle d'une mère et celle d'un père, d'un époux. Voilà, chacun est amené à dire quelque chose de Dieu à sa manière. Numéro 371. Créés ensemble, l'homme et la femme sont voulus par Dieu l'un pour l'autre. La parole de Dieu nous le fait entendre par divers traits du texte sacré. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Aucun des animaux ne peut être ce vis-à-vis de l'homme. La femme que Dieu façonne de la côte tirée de l'homme, qui l'amène à l'homme, provoque de la part de l'homme un cri d'admiration, une exclamation d'amour et de communion. C'est l'os de mes os, la chair de ma chair. L'homme découvre la femme comme un autre moi, de la même humanité. C'est très beau ce récit de la création. Il y a deux récits, hein, de la création de l'homme et de la femme, et de la création générale. Mais je te montre, je pense que c'est le deuxième récit, c'est intéressant de voir au fond que et Dieu présenta à l'homme toute la création, et il ne vit aucune aide qui lui soit assortie, aucune aide avec laquelle il puisse vivre cette dimension de personne. On ne peut pas vivre une dimension de communion avec un animal. Nous avons un chien qui est Toby, qui est même très pieux puisqu'il suit le chapelet. Puis maintenant, on a un chat aussi qui nous a rejoint récemment. Il ne peut pas faire son entrée en communauté, sinon nous serions pléthores. Mais voilà, mais il n'y a pas cette dimension de don. On ne peut pas rentrer dans une communion, et on peut être triste de voir des personnes qui ne vivent qu'avec un chien et un chat, voilà. Comme, voilà, et, ben, parce que la personne est faite pour la personne n'est pas faite pour l'animal. Alors c'est bien, des animaux domestiques, c'est très bien, on est pour, mais à leur place. À leur place. Et du coup... Il tire de la côte, du côté, c'est-à-dire du côté de la côte d'Adam, comme on dit, de son désir de communion, du côté du cœur, il tire l'époux. L'époux, c'est celui qui va emmener l'époux plus loin dans son désir d'exprimer son désir de communion, d'exprimer sa capacité d'aimer. Et on voit bien que l'homme a bien du mal à exprimer ça, son intériorité, ses sentiments, ce qu'il ressent, etc., etc. Et l'épouse va être là pour aider l'homme. Il lui faut une aide. C'est intéressant. Il n'est pas dit à la femme qu'il lui faille une aide. On n'en tirait pas orgueil, mesdames. Mais restez dans l'humilité. Mais il n'est pas dit. Il est dit de l'homme qu'il lui faut une aide. C'est intéressant. C'est quelque part la dernière créée, c'est la femme. Parce que l'humanité est féminine, que ce soit homme ou femme, l'humanité est appelée à être l'épouse d'un unique époux qui est le Christ. Donc vous voyez, on est loin des clichés, bon, qui fait quoi dans la maison, qui, voilà. Ça je pense qu'il faut, c'est des clichés qui viennent beaucoup d'une culture bourgeoise, etc., qui n'est pas dans la parole de Dieu. La femme et l'homme sont dans une complémentarité, dans l'union des corps, mais chacun a une manière d'être au monde, l'épouse, au fond, est amenée à aider l'homme à exprimer aussi ce désir de communion, à passer de l'efficacité, souvent qu'il habite, à l'amour, au fond. Hein, et c'est vrai que dans le texte sacré, on voit bien, très bien ça, c'est un cri d'amour en voyant la première femme, l'homme dit l'os de mes os, la chair de ma chair, hein, il découvre un autre moi, une même humanité. Hein, au fond, la femme est là pour aider l'homme à exprimer l'amour, à rentrer dans une capacité d'amour plus que dans une capacité d'efficacité, de faire, à rentrer plus dans l'être que dans le faire. Il lui faut une aide qui lui soit semblable. Et de quoi l'homme aide dans ce sens-là, ça a un sens de salut. C'est-à-dire qu'il faut à l'homme un salut. Et de quoi l'homme doit être sauvé? Doit-il être sauvé? Il doit être sauvé de sa solitude. Sauvé de son enfermement sur lui-même. L'épouse, la femme, tire l'homme de l'enfermement sur lui-même. Elle a cette mission de provoquer en lui l'amour. Voilà une personne avec qui il peut vivre une communion, alors que personne d'autre de créé, il peut vivre une communion sur la terre. Numéro 372. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Non pas que Dieu ne les aurait pas faits qu'à moitié ou incomplets. Il les a créés pour une communion de personnes en laquelle chacun peut être une aide pour l'autre. Parce qu'ils sont à la fois égaux en tant que personne, os de mes os, et complémentaires en tant que masculin et féminin. Dans le mariage, Dieu les unit de manière qu'en formant une seule chair, ils puissent transmettre la vie humaine. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. En transmettant à leurs descendants la vie humaine, l'homme et la femme sont époux et parents, coopèrent d'une façon unique à l'œuvre du Créateur. Voilà, c'est à la fois cette dimension de masculin, de féminin, qui exprime quelque chose de Dieu, et qui exprime aussi évidemment un passage, une invitation à être passeur de vie, comme un seul l'homme ou seule la femme ne peut pas être passeur de vie. Alors, il y a des techniques maintenant formidables, très bien, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Hommes et femmes, c'est dans cette complémentarité qui transmettent la vie. Qui sont coopérateurs de façon unique de l'œuvre du Créateur, comme il était dit, là il est dit dans le numéro 372. Donc C'est intéressant de méditer là-dessus, de dire au fond que ils formeront une seule chair pour rappeler que Dieu est un. C'est ensemble, dans l'unité du corps, ils rappellent que Dieu est un. Et donc l'union intime des époux est de l'ordre de la célébration. Vous voyez, tout ça on le doit à Jean-Paul II, tout ce qu'on a fait déjà comme avancer, alors qu'au contraire, c'était vu comme ce qui était nous rapprocher de Dieu, c'était au contraire la vie monastique, etc. Et là on nous dit de façon très claire, le fait qu'il soit une seule chair, dit quelque chose de Dieu, d'un Dieu un. Dans cette complémentarité, dans cette égalité de dignité, cette complémentarité des personnes, et complémentarité des corps. C'est pour ça que le mariage, contrairement à certaines lois récentes, mais le mariage, l'homme et la femme, pourquoi ? Parce que dans le mariage chrétien, ils sont signes, l'homme et la femme, d'un Dieu qui est un. Et ensemble, ils sont signes de l'unité de Dieu. Alors combien le vivent, j'en sais rien. Non. Beaucoup n'en sont pas là au niveau de leur foi, mais quand on accompagne des couples qui sont vraiment chrétiens, etc., hommes et femmes, quand ils se préparent au mariage, c'est dans leur oui l'un à l'autre, ils redisent cette unité de Dieu, ils redisent l'unité dans laquelle ils ont été créés. Dans le dessein de Dieu, numéro 373, l'homme et la femme ont la vocation de soumettre la terre comme intendant de Dieu. Cette souveraineté ne doit pas être une domination arbitraire et destructrice. À l'image du Créateur qui aime tout ce qui existe, l'homme et la femme sont appelés à participer à la providence divine envers les autres créatures, de là leur responsabilité pour le monde que Dieu leur a confié. On en a déjà parlé, l'écologie c'est quelque chose qui vient de la Bible. Parce que l'homme et la femme auront à répondre de la manière dont ils utilisent les biens de ce monde. On aura à répondre. On est les gardiens, non seulement le gardien des uns des autres, mais le gardien des choses créées. Et de respecter aussi la nature, de respecter cette création qui nous a été donnée, ce trésor. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas une autre planète dans laquelle on pourrait aller se réfugier si celle-ci ne fonctionne plus. Donc ils ont vocation de soumettre la terre. C'est vrai que quelque part, la création n'est pas achevée. C'est intéressant, la création n'est pas achevée. L'homme et la femme ont ensemble la vocation de continuer la création, d'embellir la création, de travailler sur le créé, de découvrir les lois de la physique, de la nature, etc., de faire fonctionner leur intelligence sur le créé, tout en respectant cette dimension de création. Donc, bien sûr que la question, embellir la création, cultiver, la protéger, tout ça, tout ce travail que Dieu a confié à l'homme et à la femme, à percer les secrets de la nature. Il n'y aura pas tout donné comme ça, tout cuit. Il y a tout un travail, il y a une responsabilité. Mais tout en étant des serviteurs de cette nature. On est serviteurs de la nature. Le pouvoir, dans l'Évangile et puis dans la Bible, le pouvoir est un service d'abord. C'est vrai qu'on a un certain pourvoir, on peut dire... un arbre, tac, on peut le tronçonner, à une vache, on peut la tuer, la transformer en bifteck, etc. Mais ce pouvoir-là, est-ce qu'on le met au service de la nature ? Est-ce qu'on le met au service de la création ? Et donc, est-ce qu'on respecte les lois de la nature ? Et on voit bien que l'appétit d'argent qui, parfois... bien souvent nous tend des pièges à l'humanité, fait qu'il n'y a pas de respect de la nature. On voit la nature comme uniquement une source de profit. Numéro 4, l'homme au paradis. Intéressant ça. Le premier homme n'a pas seulement été créé bon, mais il a été constitué dans une amitié avec son créateur et une harmonie avec lui-même, et avec la création autour de lui, telles qu'elles sont, elles ne seront dépassées que par la gloire de la nouvelle création dans le Christ. l'Église, en interprétant de manière authentique le symbolisme du langage biblique à la lumière du Nouveau Testament et de la tradition, enseigne que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été constitués dans un état de sainteté et de justice originelle. Cette grâce de la sainteté originelle est une participation à la vie divine. Voilà. Au commencement, il y a une création. Alors, c'est un peu mystérieux. Est-ce qu'il y a eu un seul couple qui a été créé? Est-ce que c'est plusieurs couples? Est-ce que c'est un couple qui a été créé et qui vient du monde animal et à qui Dieu a insufflé l'âme spirituelle et immortelle? Toute la loi de l'évolution, là aussi, ça se pose là. Comment ça s'est fait? Bon, j'y étais pas, et vous non plus. En tout cas, ce que je sais de la parole de Dieu, c'est qu'il y a eu une création, il y a un acte créateur. Est-ce que Dieu a pris des animaux comme par exemple des grands primates, etc., et a donné à ces primates, a insufflé un souffle de vie, et ou est-ce qu'il a formé directement l'homme? Bon, est-ce qu'il y a un seul couple? Est-ce que c'est Adam et Ève, c'est la vivante et le glébeux? Donc du coup, ça dit pas, c'est pas un monsieur avec un numéro de sécurité sociale. Hein. C'est de façon générique l'homme et la femme. Donc pour moi, il faut pas voir. Bon, en tout cas, à un moment donné, il y a eu une action de Dieu sur le créé et sur des qui a fait que avant ils étaient animaux, maintenant ils sont personnes. À un moment donné, et c'est vrai que quand on fait on croit à l'évolution. L'évolution, pourquoi pas? De fait, il y a eu une forme d'évolution depuis l'ère primaire, etc. Il y a eu une évolution depuis l'Homo sapiens, c'est une évolution. La personne est plus grande, vit plus longtemps, un cerveau plus développé, etc. Bon, il semblerait qu'on ait moins de poils aussi, bon, ça dépend un peu des individus. Mais il n'y a pas une différence de nature. Dès que l'Homo sapiens a commencé à enterrer ses morts, enterrer les morts, ça c'est typiquement humain. Et quand on remonte, ben, certains disent, ben, quand est-ce que ça s'est fait? Il y a ce qu'on appelle le chaînon manquant. À un moment donné, on voit, il y avait l'animal, puis ensuite il y a l'homme. C'est le chaînon manquant. Pourquoi pas qu'il y ait une évolution? Oui, mais c'est pas l'âme spirituelle et immortelle n'est pas le fruit de l'évolution de la matière. C'est l'œuvre créatrice de Dieu. On a changé comme être humain, on est plus grand, on vit plus vieux, on vit que ceci, etc. Même depuis l'âge du Christ, on vit bien. On a changé comme morphologie. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une nouvelle nature depuis que. Voilà. Or là, à un moment donné, il y a une décision de Dieu, quelque part, de cette nature-là n'est plus animale, elle est humaine. Avec une dotation de l'intelligence et de la volonté. C'est un acte de foi aussi, mais aussi c'est une constatation que font les scientifiques, de dire, ben, c'est vrai que quand on remonte, on ne s'explique pas à quel moment on peut dater nos premiers parents, mais comment est-ce que ça s'est fait, ce saut? Comment on explique la différence? Une différence qui est de nature, c'est pas simplement une différence des aspects extérieurs, comme le fait d'être plus vieux ou être plus grand, non, de nature, il y a une différence de nature. Et nous avons là, comme croyants, nous appuyons sur la parole de Dieu et disons, Dieu, à un moment donné, a insufflé l'âme spirituelle immortelle, capacité de connaître et d'aimer. Par le rayonnement de cette grâce, donc l'invitation à participer. L'homme et la femme ont été créés dans la participation à la vie divine, participer de cette vie divine. Par le rayonnement de cette grâce, toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées, tant qu'il demeurait dans l'intimité divine. L'homme ne devait ni mourir, ni souffrir. L'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, enfin l'harmonie entre le premier couple et toute la création, constituait l'état appelé de justice originelle. Comment c'était avant le péché originel, qui sera le thème de notre prochaine rencontre? Comment c'était? On n'était pas là pour le voir, mais ce qu'on peut penser, c'est que, ce qui n'est pas complètement stupide, c'est qu'il y avait cette amitié avec Dieu. Et cette amitié avec Dieu faisait que l'homme et la femme n'avaient pas besoin de se cacher l'un de l'autre dans leur intimité. Il y avait une intimité aussi avec la nature. Il y avait une connaissance, ce qu'on appelle les dons préternaturels. Peut-être vous avez entendu ce mot-là, hein, c'est un mot un peu compliqué. L'homme et la femme, en union avec Dieu, avaient une connaissance de la nature qui lui aurait été donnée par le Seigneur. On voit ça, par exemple, dans la vie des saints. Un saint François d'Assise, qui a un contact, le miracle des loups, vous vous rappelez, dans saint François d'Assise, il y a le miracle des loups, il y a un contact avec la nature, il y a un dialogue avec la nature, avec les animaux, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Et puis c'est pas le seul saint qui a une forme de connexion avec le monde animal. On a perdu ce lien avec la nature. On dit, mais non, ces histoires-là, c'est un peu surréaliste, non. Mais on voit des hommes et des femmes qui ont eu un contact avec une compréhension, une communion avec la nature. Mais parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. La maîtrise du monde que Dieu avait accordé à l'homme dès le début se réalisait avant tout chez l'homme lui-même comme maîtrise de soi. L'homme était intact, ordonné dans tout son être, parce que libre de la triple concupiscence qui le soumet au plaisir des sens, à la convoitise des biens terrestres, à l'affirmation de soi contre les impératifs de la raison. Au fond, avant le péché originel, l'homme et la femme avaient une maîtrise d'eux-mêmes donnée par Dieu. Il n'y avait pas de combat spirituel, parce qu'on était simplement en amitié avec Dieu et on recevait de Dieu eh bien, toutes les lumières qu'il fallait pour nous diriger. Et voilà, c'est. Et on verra avec le péché originel la fois prochaine. Ben voilà comment, à la suite du péché originel, au contraire, ben, il y a eu une séparation de l'homme et de la femme, des hommes entre eux, Caïn et Abel, séparation d'avec la nature. Comme la séparation d'avec Dieu a tout cassé. Et pour retrouver l'union de tout, eh bien, il faut remonter d'abord à la source, s'unir avec le Seigneur. Le signe de la familiarité avec Dieu, c'est que Dieu le place dans le jardin. Il pour y cultiver le sol et le garder. Le travail n'est pas une peine, mais la collaboration de l'homme et de la femme avec Dieu dans le perfectionnement de la création visible. C'est toute cette harmonie de la justice originelle prévue comme pour l'homme par le dessein de Dieu qui sera perdu par le péché de nos premiers parents. Voilà, donc c'est intéressant en tout cas de se dire que Dieu, c'est intéressant, il l'a placé dans un jardin, là aussi c'est... Et où est-ce qu'est mort le Christ, si ce n'est dans un jardin? C'est des parallèles qui sont intéressants, c'est plus symbolique, mais Dieu lui a confié une familiarité avec Dieu qui fait qu'il le place dans un jardin pour cultiver le sol. Le travail n'est pas vu comme quelque chose de pénible avant le péché originel, n'est pas vu. Hein, c'est après le péché originel que Dieu maudit le sol, il ne maudit pas le travail. On regardera ça ensemble la prochaine fois, mais il ne maudit pas le travail. Au contraire, c'est que l'homme et la femme sont en collaboration pour perfectionner la nature. C'est être avec l'autre. On travaille main dans la main avec le Seigneur. Donc, il n'y a ni souffrance, ni... Voilà, c'est le paradis terrestre, ni souffrance, ni mort. Parce que la mort, on n'est pas fait pour la mort. Hein, ni opposition, ni... Il y a de cette communion avec Dieu, rejaillit une communion... En général, partout. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question de création de l'homme et de la femme. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Oui.
Alors, s'il n'avait pas créé les hommes, qui l'aurait
S'il n'avait pas créé l'homme, qu'il aurait aimé servi, bon, il n'a pas besoin d'être aimé et servi. Il n'a pas besoin d'une terre. C'est comme si vous demandez à quelqu'un qui a des richesses infinies, mais et il fait un don à quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas comment expliquer, c'est par pure gratuité. La création ne rajoute rien à Dieu. Ça, par définition, parce que sinon ce ne serait pas Dieu. Si on pense un Dieu, quel qu'il soit, on pense une plénitude. On pense quelque chose qui est achevé, qui est complet, on ne va pas aller venir compléter Dieu, ça ne voudrait rien dire. C'est juste une émanation de son amour. Il n'y aurait pas eu de terre, il n'y aurait pas eu d'univers, mais Dieu aurait été Dieu. Le fait de le servir, de l'aimer, ne rajoute rien. C'est juste pour nous que c'est une grâce. Mais, ah non. Il n'a pas besoin de notre amour. Non. Ça ne rajoute rien. Pour nous, c'est une grâce. Mais pour lui, non. Parce que si ça rajoute quelque chose, il n'est pas Dieu, par définition. Si on voit Dieu comme une plénitude, par définition, il n'y a pas besoin.
Donc quand on dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme toi-même, c'est que bon, lui, il n'a pas besoin de notre amour.
Ah, lui, non. Par miséricorde, il accepte notre amour, par bonté, mais il n'y a pas besoin. C'est une miséricorde qui fait que nous puissions l'aimer. Mais non pas que lui-même, parce que sinon c'est de l'anthropologie, c'est l'anthropomorphisme. Pardon. On reporte à Dieu ce qu'on vit pour nous-mêmes. Nous, on aime bien être aimé, oui, bien sûr. Nous, on aime bien qu'on nous dise ou qu'on nous remercie. Nous, on aime bien être... oui, alors du coup, Dieu, il est pareil. Non, Dieu, il n'est pas pareil. Oui.
C'est comme un cadeau dont il a tout
goût,
du fait qu'il nous a envoyé son fils.
Alors, il y a eu un amour tellement grand pour nous qu'il nous a envoyé son fils pour nous sauver. Mais là encore, ça ne rajoute rien à lui. Ça rajoute rien.
Est-ce qu'il a un plan?
Alors, oui, ça c'est autre chose, mais ce n'est pas pour ça que ça rajoute quelque chose à lui-même. Alors, ça, on verra après. En Jésus, il y a quelque chose qui manifeste Dieu, mais quelque part qui ne rajoute rien à Dieu. Il y a un plan, oui, il y a un désir d'amour, il y a un désir de communion, il y a un désir de bonheur pour la personne humaine, mais on pourrait très bien imaginer un monde sans personnes humaines, sans même création.
Non,
il est là.
Mais par exemple, souvent c'est dans des accidents, des pertes d'enfants, des choses comme ça, qu'on découvre Dieu.
Oui.
Et il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, t'as perdu ton enfant, c'est parce que tu le méritais, ou il y a beaucoup de gens qui disent ça.
Oui. Oui, mais c'est de notre côté, c'est pas de son côté à lui. Ça voudrait rien dire. Il n'a pas besoin qu'on le découvre. Dire qu'on le découvre ou pas, ça n'a rajouté rien à lui. Mais ça ne rajoute. Mais même que ce soit un Dieu amour, le fait que ce soit un Dieu amour, très bien. Bon, un Dieu vengeur, c'est un anthropomorphisme encore une fois, parce qu'on me fait du mal, donc je fais du mal, donc Dieu va être pareil. Mais non. Dieu, l'homme, comme dirait une fois seulement, c'est De Vos qui est l'humoriste qui disait l'homme a Dieu a créé l'homme à son image et ressemblance, et l'homme lui a bien rendu. C'est, quelque part, l'homme aussi a créé Dieu à son image et ressemblance. Dieu n'est pas homme, et donc du coup, ça reste un mystère, mais il y a une gratuité. C'est là où ça nous impose, il y a une forme de gratuité. Ce monde ne pourrait très bien ne pas exister, ou cette forme de monde ne pas exister.
Et qu'est-ce qui envoie
les maladies, les crânes ? La question du mal, on a parlé déjà du mal de la Providence, on a déjà parlé la fois précédente ou la fois d'avant, la fois d'avant. Mais on a parlé de ça, de dire, le fait d'être coupé d'avec Dieu fait qu'on n'a plus de connaissance de la nature, fait que par exemple, on n'a plus de connaissance de ce qui pourrait être les tremblements de terre, de ce qui pourrait être, etc. Et puis même au niveau de notre corps, etc., il y a une séparation, c'est le péché originel qui fait que, avec le péché est venu la mort, on n'est pas fait pour la mort. On n'est pas fait pour la mort. Mais Dieu n'a pas créé le péché, il a créé la vie. Donc, il a renvoyé son propre fils. Mais c'est là, c'est, je trouve que c'est important de parce que c'est des questions qui ne sont pas si simples. Hein, c'est, mais en même temps, de se dire, et en même temps, c'est très fondamental, parce que si on n'a pas de péché, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un sauveur? Le problème aujourd'hui de nos sociétés, de beaucoup, c'est. Ah ben non, parfois il m'est arrivé de confesser comme ça. Ah ben mon père, vraiment, moi j'ai rien à dire. Ah, bon, ah non, moi je ne pêche pas. Ah bon, c'est bien, vous avez de la chance. Ben, on va interroger votre femme, monsieur, hein, pour voir si vous ne pêchez pas. Donc, non, je dis ça en plaisantant, mais le drame, c'est qu'on ne reconnaît pas, peut-être qu'on s'est éloigné du Seigneur. C'est ça le drame. Et qu'on a besoin de salut, d'être sauvé. Ça peut l'aveuglement de la conscience. L'aveuglement de la conscience. Qui fait qu'on ne reconnaît pas que, ben, en nous, il y a quelque chose qui s'oppose au Seigneur et qui nous enlève quelque. Qui nous, d'une certaine manière, qui met une distance avec nous-mêmes, qui fait qu'on ne fait pas ce à quoi on est appelé à remplir notre vocation. Oui.
Un grand mot dans la religion, c'est le pardon.
Oui.
Comment se fait-il que Dieu n'ait pas pardonné dans Dieu?
Alors, intéressant. Alors, est-ce qu'ils ont demandé pardon? Il n'est pas dit. Mais ce pardon, il est donné en Jésus. Hein, il est donné en Jésus, ce pardon, il est en donné. Alors, on va pas. C'est la prochaine fois, donc il faut pas. C'est la saison 3, là, donc il faut pas me. Faut pas me casser la baraque, là. Me cassez pas la baraque, parce que là, ensuite, c'est la saison 2. Là, voilà. Mais bon. J'aurais plus rien à dire après, donc du coup, oui, tu voulais dire quelque chose? Ah, la pomme, il n'y a pas de pomme. Bon, on verra, ça c'est la saison 3, donc il n'y a pas de pomme. Non, y a, à aucun moment j'ai vu une pomme, ça c'est un truc des lumières. Ah, parce que il y a aussi la liberté. Il y a la liberté qui. Parce qu'on a l'image et la ressemblance. Parce qu'on n'est pas des marionnettes. On pourrait regretter de ne pas être des animaux. L'animal ne pêche pas. On dit oui. Comment? Ah, non, mais non, mais ils étaient libres. Mais ils étaient libres. Mais on peut très bien être regretté de ne pas être d'avoir été créé humain. Ah non, mais c'est une possibilité. Pourquoi est-ce qu'on. Avant le péché, on n'était pas des animaux, on est bien d'accord. Mais on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, Dieu a créé cette image et cette ressemblance? Pourquoi il nous a donné cette responsabilité? Si on était guidé par le simple instinct, ben, ce serait tellement agréable. On ne serait pas en train de faire des haltes spirituelles, par exemple. Bon. Eh bien, mesdames, d'autres questions, mais il ne faut pas déborder sur notre saison.